Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle édition du journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole sur Africa Radio. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre la corruption au Mali. Plusieurs personnalités ont été arrêtées et emprisonnées pour des soupçons de détournement de fonds. Alors que pensez-vous de ces arrestations tout azimut? Peuvent-elles réduire la corruption dans un pays où elle atteint parfois jusqu'à 40% de l'aide au développement? Nous en parlerons dans quelques instants avec un invité, Clément Dembélé est avec nous en studio. Il est président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali et accessoirement ancien candidat à l'élection présidentielle. Pour nous faire part de vos commentaires, appelez-nous dès maintenant. Le numéro à composer, que vous soyez à Abidjan, Paris, N'Djamena, Bamako ou encore Dakar, c'est le 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. N'hésitez pas également à nous envoyer des messages sur WhatsApp. Mais avant de vous écouter en direct, on se tourne vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, j'ai dit bonjour, c'est Vera l'appareil. Je viens à peine d'écouter notre très reine, la reine Yemi Alade, sur notre radio, Africa Radio. Voilà, comme d'habitude, on est toujours scotché à cette radio parce qu'elle nous fait du bien. Bref, alors j'ai écouté l'interview de Yemi Alade qui dit que, en parlant de la musique, la nouvelle musique urbaine africaine, que franchement, que ce grand pont qui est offert aux Africains entre l'Afrique et le reste du monde, franchement, c'est une bonne chose, et que ce mouvement-là, toutes les personnes qui sont dans ce mouvement-là, il faut qu'elles travaillent dur pour que ce mouvement perdure. Mais franchement, c'est une chance parce qu'on ne savait pas d'où c'est sorti, c'est venu comme ça. Alors là, c'est le mot qui m'a interpellé. C'est venu comme ça. On ne sait pas d'où ça sort, c'est venu comme ça. Voyez-vous? Non, ce n'est pas gentil. Toute la musique urbaine qu'on chante aujourd'hui vient de la Côte d'Ivoire, d'un certain Doug Saga.
Chers amis de la radio africaine, bonjour. Moi, je pense que l'Afrique, pour nous, aujourd'hui, c'est notre patrimoine. Nous, en tant que les Africains, nous devons sauver ce patrimoine qui est le continent le plus riche de la planète. Mais comment? C'est par le dialogue et la négociation. Moi, je pense qu'il y a une situation terrible qui se passe aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. Le président Paul Kagame est en train de semer la confusion dans la tête des gens. Il n'y a pas cela plus longtemps, quand Kabila était au pouvoir, Kagame disait « Le conflit à l'est de la RDC, c'est un problème congolais, ils doivent le régler entre eux. » Voilà aujourd'hui sur le même Kagame qui change de parole, qui dit que la population qu'on appelle au Congo, la population Banyamulenge qui est menacée dans les territoires de Minembwe, ne sont pas congolais, c'est la population d'origine rwandaise mais installée au Congo. Chers Africains. Et aujourd'hui, il y a des militaires étrangers qui se battent à côté de cette population. Nous ne savons pas s'ils sont sortis d'où. Les Banyamulenge, ils sont au Congo, ça fait longtemps. S'il y a une situation entre les différentes tribus, c'est le dialogue et la négociation.
Oui, bonjour Africa Radio, auditeur d'Africa Radio. La semaine dernière, il y a au moins une douzaine de chefs d'État africains qui ont été invités par les autorités allemandes pour trouver la solution au problème migratoire des jeunes africains. Je pense que l'Allemagne est prête pour donner beaucoup d'argent en Afrique, mais je ne suis pas sûr que c'est un problème d'argent. L'Afrique est un problème de dirigeants. En Guinée-Conakry, puisque je suis la Guinée, il faut bien que je dise ce que je connais. La Guinée-Conakry, je répète encore qu'il y a, au moins en Guinée, il y a plus de 3 500 000 habitants à Conakry. Bon, pour ça, on sait que les tribunaux sont remplis de problèmes, mais si je vous dis qu'à Conakry, dans tout Conakry, il n'y a que trois commissaires priseurs, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas que ça veut dire commissaire priseur. C'est l'agent qui est habilité pour saisir, après le saisir par l'huissier, c'est l'agent qui doit vendre les objets saisis. Donc c'est commissaire priseur. Nous savons que dans tous les pays du monde, les tribunaux, ils ont beaucoup de boulot. Conakry, il y a seulement 3 commissaires-priseurs. Je dirais 2 commissaires-priseurs parce qu'il y en a un qui est malade et qui est bon. Bref, ils ont été formés le temps de Sékou Touré. Depuis ça, on n'a pas de commissaire-priseur, alors que le pays a besoin de ça. Au lieu de former les jeunes, les métiers qu'on a besoin, les écoles sont remplies, les enfants ils font des études, des métiers que l'Afrique n'en a pas besoin.
Bonjour, chers auditeurs de Africa Radio. Alors, j'aimerais quand même interpeller les auditeurs sur la stratégie de communication que les médias occidentaux, notamment françaises, je n'ai pas cité une radio française qui est très, très écoutée en Afrique. Alors, sur la stratégie de communication concernant les pays africains. Voilà, et bon, j'ai entendu comme ça que bientôt avec les élections au Cap-Vert, on nous dit, voilà, les élections au Cap-Vert auront lieu ce dimanche, et voilà, une ancienne colonie portugaise. Et ça, c'est très récurrent dans le discours. Ça sous-entend que le Cap-Vert, c'est un pays qui est indépendant, qui élit son président. On nous ramène tout de suite à l'époque où elle a été colonie portugaise. Donc, pour faire très attention, je laisse à tout le monde le soin de vraiment de juger mon analyse et les propos que je rapporte, qui ont été dites sur cette radio que tout le monde d'ailleurs connaît. Voilà. Du coup, faites très attention avec ce genre de discours. C'est un discours qui est fait pour toujours nous laisser sous le joug de ces pays occidentaux et de ces pays coloniaux. Voilà. Merci bien à vous et bonne journée. Vive l'Afrique.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs, la lutte contre la corruption. Au Mali, les arrestations de cette dernière semaine sont-elles le signe d'une véritable opération nettoyage ou visent-elles seulement à apaiser l'opinion malienne sans traiter vraiment le mal à la racine? Nous en parlons avec un invité en studio, celui justement qui se présente comme l'un des chevaliers blancs de la lutte contre la corruption, Clément Dembélé, bonjour.
Bonjour Madame Hartmann.
Merci d'être venu jusqu'à nous Clément Dembélé, vous êtes président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali, c'est la PCC et accessoirement ancien candidat à l'élection présidentielle, en tout cas. Vous avez voulu briguer la magistrature suprême. Alors, dernière arrestation en date, c'est celle de Kissima Gakou, doyen de la faculté de droit privé à Bamako. Il a été placé en détention. Il est accusé, selon nos confrères de Malijet, d'avoir détourné des biens publics qui sont estimés à 200 millions de francs CFA, d'avoir falsifié des documents comptables et usurpé la fonction de comptable, justement, en nommant un informaticien en qualité de comptable dans cette faculté. Excusez-moi, Kissima Gakou rejoint en prison Bakary Togola, également le maire de Bamako, Adama Sangaré. Première question, Clément Dembélé. Trouvez-vous normal que ces gens soient incarcérés sans autre forme de procès, finalement, voilà, qu'ils soient tout de suite mis en prison? Est-ce qu'on craint à ce point qu'ils s'échappent du Mali?
Oui, mais vous savez, il y a deux tiers du territoire malien qui n'est pas effectivement contrôlé. Donc aujourd'hui, je pense que par des mesures préventives, quand quelqu'un reconnaît les faits devant le procureur anticorruption, il va de soi que la personne soit en détention préventive le temps de mener l'investigation.
Mais s'il reconnaît les faits, c'est-à-dire qu'il y a moment...
Devant le procureur, parce que la plupart du temps, quand le procureur mène son enquête...
Ils ont tous reconnu avoir été coupés.
Il ne peut pas vous mettre en détention préventive tant qu'il n'a pas la pièce de sa conviction, tant qu'il n'a pas présenté un juge d'instruction. C'est le juge d'instruction qui décide à ce moment de vous mettre en détention préventive. Ça veut dire que au moment où on vous arrête, ça veut dire qu'il y a des pièces à conviction, au moment où on vous arrête, il y a eu des enquêtes et que vous avez reconnu quelque part votre responsabilité dans l'accusation. On vous met en détention préventive, le temps d'aller plus en profondeur et le temps de vous amener devant le juge pour votre jugement. Donc pour l'instant, les gens qui sont arrêtés, on ne peut pas dire qu'ils sont 100% responsables sur le montant.
Ils n'ont pas été jugés, quoi.
Ils n'ont pas été jugés, mais en tout cas, ça veut dire qu'ils ont les responsabilités qui sont engagés dans le fait qu'il
y a un faisceau d'indices et de preuves qui démontrent peut-être leur culpabilité. Alors, ma première question, peut-être du LCT, que pensez-vous, vous, justement, qui luttez contre la corruption, que pensez-vous de cette opération lancée il y a quelques semaines et qui vise parfois, souvent, des proches d'Ibrahim Boubacar Keïta, je pense à Bakary Togola, mais également Adama Sangaré, cadre de l'ADEMA, qui était allié d'Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'en pensez-vous?
Il y a le maire de Banguineda, qui est une commune rurale de Bamako, qui n'est pas proche du BK. Il y a le président du conseil régional de Kaï, qui a détourné beaucoup de milliards, qui n'est pas proche d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a l'ancien maire de Koulikoro, la deuxième région du Mali, qui n'est pas proche d'Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, il y a plus d'une quarantaine d'interpellations qui ont eu lieu, mais tous ces gens ne sont pas proches d'Ibrahim Boubacar Keïta. Vous savez, au Mali, il y a aujourd'hui une fausse lecture de cette campagne anti-corruption qui consiste à dire « Attention, on va essayer de politiser cette affaire parce que ce sont les proches d'Ibrahim Boubacar Keïta ». Non, IBK, si c'est le cas, Ibrahim Boubacar Keïta a décidé aujourd'hui de mener ce combat contre ses proches parce que lui-même dit « J'ai nommé le ministre de la Justice uniquement pour lutter contre la corruption ». Et il y a quelques jours, lors de la rentrée judiciaire, il disait, je cite, « Nul n'est au-dessus de la loi et la loi doit frapper tout le monde ». Il n'y a pas de proche, il n'y a pas de loin. Celui qui a pris la part du peuple doit répondre de face à ses responsabilités. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta a lancé ce combat et la société civile a lancé ce combat. La magistrature commence à redorer son blason. Il n'y a pas de proche, il n'y a pas de loin. Celui qui a volé, l'a volé. Si vous êtes proche d'IBK, vous êtes proche du président de la République. Ben, si vous pensez qu'on confond le bien public à la propriété privée et qu'une expression au Mali qui est carrément archaïque pour moi, qu'on appelle la famille présidentielle. Si vous pensez que vous êtes proche de la, entre guillemets, de la famille présidentielle et que vous vous permettez de faire l'impensable, vous permettez de faire l'inadmissible, qui est de voler le bien public, mais vous répondez, vous partez en prison. Donc il n'y a pas une campagne contre ou pour IBK, il y a une campagne pour le Mali.
Contre la corruption, c'est sûr. Corruption, vous avez cité, on citera le nom du ministre tout à l'heure, effectivement, parce que cette campagne contre la corruption, ces arrestations ont commencé après la nomination d'un gouvernement national et d'un ministre de la Justice qui vient de l'opposition. Mais on va donner tout de suite la parole aux auditeurs. Ils sont nombreux, ils se sont bousculés sur le téléphone pour pouvoir participer à cette émission. On commence avec Cerceli. Cerceli, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Cerceli. Bienvenue. Alors, pouvez-vous couper votre kit main libre, radio ou quelque chose comme ça, s'il vous plaît, si c'est possible?
Waouh.
C'est une question de qualité sonore.
Ok.
On va vous laisser le temps, au point où on en est. Est-ce qu'on vous entend mieux? Pas du tout, je crois pas, non. Allez-y.
Alors, j'aimerais dire, à mon point de vue, la démarche, elle est bonne.
Oui, Cerceli.
Vous m'entendez mieux ?
Là, on vous entend mieux, Cerceli. Allez-y. Voilà. La démarche, elle est bonne, vous dites. C'est un bon signe.
Elle est bonne, surtout, professeur Clément Dambélé, je la salue. Mais véritablement, je me pose des questions. Les véritables corrompus de Mali, les corrupteurs, c'est qu'ils ont prétendu lutter contre la corruption. Si IBK, avec tous les respects que je lui dois, s'il veut vraiment lutter contre la corruption, comment ça se fait-il qu'on ait. Il lui-même, il dit, on est en guerre. Mais les avions qui étaient volés, ce sont de ses proches qui sont dirigés ça. Il y a son fils qui est cité dans tous ces dossiers-là. Qu'est-ce que M. Clément, l'État malien, ils ont pris comme mesure? On est en guerre. Mais ce qui est plus dommage, tout est corrompu de A à Z au Mali. Je suis désolé. J'ai des preuves pendant les campagne et pendant les élections présidentielles au Mali, que ce soit les chefs de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, que ce soit IBK, ils ont distribué les pognons. Mais j'étais au courant.
Vous dites, si je comprends bien, Cerceli, ces personnalités qui sont arrêtées sont peut-être soit des boucs émissaires, en tout cas, ce n'est pas les plus gros corrupteurs ou corrompus du Mali, c'est ce que vous dites?
Ben oui, en fait, s'ils veulent vraiment nettoyer le Mali, je pense, est-ce qu'ils n'ont pas en train de faire calmer le. Parce qu'il y a tellement de tensions au Mali actuellement, ça risque de péter. Si bien ça sûr. Pète, c'est IBK qui va sauter. Il faut calmer les gens, surtout, au moins, on connaît la profession de M. Clément Dambélé et les autres. Et les politiciens maliens, on ne connaît pas leur métier. Ils n'ont pas d'autre chose que de voler ou que ce soit la politique. Ils ne font pas autre chose que la politique.
On peut se demander comment certains gagnent de l'argent. C'est ce que vous dites, Cerceli, notamment du côté du personnel politique. Merci, Cerceli. Alors, puisque vous avez interpellé Clément Dembélé, je viens vers vous, Clément Dembélé. Vous entendez Cerceli qui dit finalement, c'est peut-être juste quelques gages qu'on donne à une opinion exaspérée. Et on se souvient, si je me rappelle bien comment ça s'appelle, le bureau du vérificateur général avait fait un rapport, c'était au moment du premier mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta, il me semble, sur les dépenses, justement, de l'armée. Et le détournement par certains généraux de sommes qui étaient notamment allouées à l'achat de matériel, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, comme le disait Cerceli, puisque le pays est en guerre, commencer par ça?
Alors, moi je vais vous dire une chose. Concernant cette affaire des avions cloués, qui avait été déclaré par Ibrahim Boubacar Keïta le 16 juillet dernier dans le Jeune Afrique, numéro 3051. Nous avons porté plainte. Et actuellement, le procureur anticorruption, M. Mamadou Kassogué et son équipe, est en enquête. Ils sont en pleine enquête. Ils ont même fait appel à témoignage, exceptionnellement. Et en dehors de cela, la plainte que nous avons déposée à mon retour à Bamako, nous allons faire des grandes sorties pour mettre la pression pour que, de toute façon, si l'enquête ne bouge pas très vite, à l'envie de la population, nous demandons tout simplement que, parce qu'à l'époque, il y avait un ministre de la Défense, il y avait un chef d'état-major, il y avait des conseillers spéciaux qui ont fait les démarches pour que ces avions soient achetés. Ce sont des hélicoptères qui ont été achetés à Airbus en France. Et il y a des gens qui ont décaissé l'argent, qui ont fait les négociations et des techniciens maliens qui ont approuvé que ces avions sont en bon état. Or, il se trouve que ces avions sont des épaves. Je retourne à Bamako. Nous allons encore sortir pour mettre la pression, pour demander à ce que justice soit faite. Cette affaire d'avion cloué au sol ne passera pas à la trappe. Les responsables vont aller en prison. C'est une obligation morale, une obligation civique. Aujourd'hui, ça s'impose à tout le peuple malien de se lever pour que justice soit faite. Et deuxièmement, concernant la loi d'orientation et de programmation militaire, dont on a voté 1230 milliards de francs CFA. Nous demandons à ce qu'il y ait un audit qui soit fait sur les dépenses qui ont été effectuées, parce que nous pensons qu'il y a de la corruption, il y a un grand réseau de corruption, on a décaissé l'argent, alors que l'armée malienne aujourd'hui, elle n'est pas équipée, elle n'est pas formée, c'est une armée qui n'est pas capable d'assurer le minimum de services. Donc aujourd'hui, on se pose la question comment on peut donner 1230 milliards à des militaires dont on vient tuer par des motocyclistes, des djihadistes qui viennent en moto, ils sont une dizaine, une quinzaine, qui viennent tuer tout un camp militaire. C'est impensable, c'est inadmissible. Donc nous voulons aujourd'hui que la lumière soit faite sur cette histoire de 1230 milliards.
C'est très clair.
Nous ne ciblons pas, parce que 90% des gens qui ont été arrêtés, ça vient de ma plateforme, c'est nous-mêmes qui avons déposé les plaintes.
Les dossiers.
C'est moi qui dépose en main propre. Et je ne suis pas là à servir, à apaiser la tension. Je ne suis pas là à faire plaisir au régime ni à l'opposition. Parce que pour moi, aujourd'hui, la priorité, c'est de rendre justice, c'est de lutter contre la corruption, c'est de rendre aux Maliens ce qui appartient aux Maliens.
Merci Clément Dembélé. Restez à l'écoute. Alors, malheureusement, je le dis toujours, cette émission est trop courte et ce temps passe trop vite. Il nous reste à peine 13 minutes. On va peut-être écouter plusieurs auditeurs à la fois. On va écouter Canouté et William. Canouté, bonjour.
Alors, oui, bonjour.
Canouté, pouvez-vous couper votre radio si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît.
Ouais, j'ai coupé, c'est bon.
Allez-y, Canouté. Alors vous, c'était juste pour saluer votre collègue Madi, c'est ça, Canouté Madi?
Oui, c'est Canouté Madi, oui.
D'accord.
Je vous salue à tous les auditeurs Africa numéro 1. En fait, monsieur le professeur Clément Dembélé, aujourd'hui, c'est ce qui a amené ce combat-là. C'est pas facile à amener ce combat-là, mais il faut du courage. Et puis les peuples maliens, ils sont derrière le peuple, là, ils sont derrière lui, en fait, pour le soutenir, parce que c'est pas facile. Mais parce que les corruptions du Mali, surtout l'Afrique, c'est pareil, hein, les corruptions du Mali, c'est pire que les autres pays, en fait.
Le Mali est classé, j'ai le chiffre quelque part, en 2018, le Mali est 120e sur 180 pays dans le classement Transparency International.
Oui,
vous connaissez bien votre dossier, Clément Dembélé.
Oui.
Apparemment, le Mali, c'est pire que les autres pays en Afrique. Mais les combats là, on ne laisse à rien, les combats là, on va jusqu'au bout si je veux, parce que franchement, ce n'est pas facile. Celui qui se bat aujourd'hui pour les corruptions dans notre pays, surtout au Mali, chez nous, c'est encore pire. Donc il faut lui donner du courage, il faut l'encourager, il faut le soutenir, il faut vraiment aller avec lui pour l'aider, parce que la justice, ils ont quand même du boulot aussi. La justice, ils sont vraiment. Le menace que. On peut dire maintenant l'encadrement de gouvernement, le justice malien, et Boubacar Keïta aussi, c'est ce qu'il avait dit tout à l'heure, mon collègue. Et Boubacar Keïta, il s'est mis à le ministre de la justice, et Maliki Koulibaly, pour la corruption.
Effectivement.
Pour les corruptions, quoi.
Merci, Canouté. Oui, vous avez cité le nom du fameux ministre de la Justice, c'est Malik Koulibaly qui vient de l'opposition. Et puis, on parlait du procureur tout à l'heure, Mamadou Kassogué. Il a déclaré ceci, Mamadou Kassogué, mi-septembre, il dit « Sans acharnement, ni a priori, nous allons mettre en œuvre un système qui nous permettra de lutter contre la corruption en ouvrant systématiquement des enquêtes chaque fois que des faits de corruption nous seront dénoncés afin de comprendre ce qui se passe. » Merci beaucoup, Canouté, de votre appel. Bonne journée. J'avais dit qu'on écouterait William. William, bonjour.
Oui. Bonjour Stéphanie, bonjour Dr. Afrika Radio, bonjour l'Afrique.
Bonjour William. Alors vous êtes un peu, comment on appelle ça, sceptique sur,
oui, sur Stéphanie, cette opération. En fait, oui, moi quand j'entends une opération lancée de la sorte, genre la lutte contre la corruption en Afrique, déjà c'est difficile ailleurs dans le monde là où il y a des lois respectées et tout. Bon, en Afrique, là où on sait que non, c'est vrai que c'est notre Afrique, mais il y a un désordre organisé par les mêmes personnes qui mettent la pression aux plus faibles. Moi, c'est ça qui, en fait, qui me dérange le plus, parce que ce contrat, c'est que les plus faibles. En fait, c'est fait de la rétention sélective. Bon, lui, on peut le prendre, et ce contrat ne marche plus dans leur entourage, ils se connaissent tous. Quand il y a des chutements passés par là, bon, lui, il faut qu'on le mette en paix les barreaux dans le roue, maintenant, il faut le mettre en paix. Ça, c'est une façon de, en fait, pour Ibeka, de détourner le regard des Maliens sur les vrais problèmes. Parce que, Stéphanie, il faut que nous le disons clairement. Le Mali, lui, la déclaration est en guerre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que la corruption, il faut lutter. Mais il y a une priorité, c'est la quiétude des Maliens. C'est la paix dans ce pays. Il faut qu'il sécurise son peuple, qu'il ne croit même plus en lui. Donc, le fait de faire de lutte contre la corruption une affaire d'État, ça veut dire que dans toute la chaîne nationale du Mali, on verra que c'est ce genre de choses qui vont passer. Et les Maliens qui attendent les vrais problèmes qui doivent être résolus pour leur bien, c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, on arrête le maire d'un côté, on arrête celui-là de l'autre côté, mais dans la même famille politique, les vrais proches d'Ibeka, et même dans sa famille biologique, on parle de son enfant, le député qui est là, qui fait le désordre, qu'on connaît déjà partout. Mais c'est tout ce monde-là. Est-ce qu'il peut laisser la liberté au juge d'aller traiter tous les concernés sans exception?
C'est la question.
On le voit ailleurs dans le monde. On a pris l'enfant des chefs de l'État ou l'enfant des ministres, et voilà, on le met dans son coin pour qu'il réponde à ses actes.
On va demander rapidement, William, merci beaucoup, on va demander rapidement à Clément Dembélé si vous aviez des dossiers, puisque apparemment William accusait le fils du président Karim Keïta. Est-ce que vous avez des dossiers particuliers sur Karim Keïta, par exemple ?
Moi personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas de dossiers particuliers sur Karim. Mais si quelqu'un au Mali, et je lance un défi à qui que ce soit, si quelqu'un a un dossier sur Karim Keïta et qui peut m'apporter le dossier avec des preuves, des pièces à conviction, je l'ai dit sur Africa numéro 1 et je lance un appel à tout le monde de m'apporter ce dossier. Je me ferai la mission de déposer la plainte et d'exiger à ce que justice soit faite.
Et Karim que ces gens-là n'hésitent pas à nous mettre en copie
Karim
pour qu'on
Keïta n'est
informer.
Pas différent des autres Maliens. Si certains ont été en prison parce qu'ils sont Maliens, Karim peut être en prison s'il a fait. Mais si on n'a pas la preuve, je ne peux pas aujourd'hui dire que Karim, il a fait ci et ça. Mais si on a la preuve, qu'on m'apporte la preuve et je vais déposer la plainte comme j'ai déposé la plainte pour les autres.
C'est très clair. On va écouter aussi Mohamed Koulibaly. Merci, William. Mohamed, bonjour. Koulibaly ? Mohamed ?
Oui, bonjour, madame Atman.
Ah, monsieur Koulibaly ! Bah oui !
Ah oui, j'ai tout compris, madame. l'information a été donnée comme quoi vous voulez pas me prendre.
Ah bah non, parce que vous êtes désagréable avec madame. Moi à l'antenne, monsieur Koulibaly, non. Je suis désolée. J'ai effectivement donné la consigne de, il y a certaines personnes que je prends plus parce que on se fait, voilà, à moitié insulter, tout ça. Donc dans ces cas-là, ça sert à rien d'appeler, messieurs. Avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur Koulibaly, je suis désolée, hein, je reste maîtresse de cette émission et ma standardiste avait bien raison, vous voyez, j'ai eu un doute sur elle. C'est pas grave. Jérôme, bonjour.
Allô ?
Bonjour, oui. Jérôme.
Bonjour.
Alors, moi, je voulais soutenir le peuple malien. Il faudra faire pareil dans toute l'Afrique.
C'est ça. En tout cas, le monsieur qui est sur votre plateau, par rapport à ce qu'il dit, Malais est quelqu'un de déterminé. Je ne le connais pas personnellement. Moi, je suis de la région ouest africaine. Et sincèrement, ce sont des choses qu'on doit faire parce que nos pays sont en train de souffrir. Et à côté de ça, on a des politiciens qui te remplissent les poches, qui sont complètement, vraiment, à côté de la plaque, quoi. Et le monsieur qui est sur votre plateau, je ne le connais pas, je dis, mais dans sa façon de faire, je sens de la détermination. Il faut une nouvelle génération. Que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la politique, il faut de nouvelles personnes. Parce que tous ceux qui sont là, qui ont géré jusque-là, ils ont manqué leur mission, quoi. L'Afrique souffre, on a besoin de développer l'Afrique. On va pas rester dans les petits pays.
Bah restons sur le Mali. Mais on a vu d'autres pays, mon cher Jérôme, puisque vous parlez de l'Afrique en général, d'autres pays quand même où la lutte contre la corruption, je
pense au Rwanda, Clément Dembélé, hein, qui est souvent cité en exemple au Botswana.
Au Kenya. Mmh.
Vous allez des fois voir les bonnes pratiques ailleurs pour peut-être faire du partage de bonnes pratiques.
J'ai beaucoup séjourné au Rwanda. Et je connais des très proches, des gens qui sont très proches du président rwandais. Et je connais son jeune frère avec qui j'ai fait ma thèse de doctorat. Et j'ai séjourné au Botswana quelques semaines pendant des séminaires de lutte contre la corruption.
Donc il n'y a pas de fatalité en fait.
Il n'y a pas de fatalité. En fait,
toute l'Afrique n'est pas au même niveau.
Il faut qu'on sorte de l'idée, et ça c'est propre à toute l'Afrique, qu'un ministre peut être milliardaire, qu'un président a le droit de voler l'argent du peuple, qu'un douanier peut construire des immeubles, qu'un haut fonctionnaire de l'État qui travaille au trésor, qui travaille aux impôts, peut se permettre de voyager, aller partout et distribuer des billets de banque comme si l'argent du peuple lui appartient. Non, cette évidence, elle est fausse. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on arrive à couper la chaîne de ce quotidien et de s'éveiller et de se dire un moment que la conscience des révolutions en Afrique aujourd'hui, la révolution qui vaille la peine aujourd'hui en Afrique, c'est de lutter contre la corruption, c'est le phénomène de la redevabilité. Il n'y aura pas de bonne gouvernance, il n'y aura pas de justice tant qu'on n'a pas lutté contre l'impunité. Or, l'impunité alimente toujours la corruption. Partout où vous voyez que des gens volent, c'est parce qu'ils sont organisés en bandits au sommet de l'État et qui se permettent de prendre la part des autres. Si je prends le cas du Mali, Mme Stéphanie, il y a 250 milliards de francs CFA détournés chaque année au Mali. 250 milliards dans l'impunité totale. Et le Mali n'est pas en panne.
Qui représente combien du budget ?
Nous avons 2200 et quelques milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10% du budget national détourné par quelques personnes qui se permettent de prendre l'argent et qui se vantent même de voler.
C'est intéressant, vous dites détourné par quelques personnes. On a parlé de l'état de la corruption au Mali. Elle touche aussi tous les niveaux de la société. Moi, ma question que j'allais vous poser, c'était est-ce que ces arrestations de personnalités peuvent aussi ruisseler, j'allais dire, descendre dans l'ensemble de la population? Est-ce que ça peut avoir une action dissuasive, voire préventive? On voit aussi des fonctionnaires de police racketter souvent des gens. Mm-hmm. Est-ce que ces arrestations peuvent descendre jusqu'aux fonctionnaires lambda, j'allais dire?
Je vous donne un exemple. Quand j'ai annoncé à Bamako que nous sommes en train de prendre l'immatriculation de tous les 4x4 qui sont possédés par les fonctionnaires, aujourd'hui, vous allez à Bamako, vous ne voyez plus les V8. Quand nous avons commencé à immatriculer, à prendre les photos, à géolocaliser toutes les maisons construites à Bamako appartenant à des hauts fonctionnaires, donc le salaire ne permet pas de construire et qu'on va déposer les plaintes, certains ont commencé à vendre leurs maisons, à vendre des immeubles. Et ça continue à Bamako. On ne peut pas aujourd'hui continuer au XXIe siècle. Depuis Kayamran Sissé, l'Empire du Ghana, ça fait 900 ans, Mme Stéphanie, qu'on exploite le sous-sol du Mali. Le Mali est deuxième en exploitation minière parce que le Ghana était deuxième. Maintenant, nous dépassons le Ghana. Après l'Afrique du Sud, c'est le Mali. Nos autorités ne sont pas capables encore de ramasser les ordures dans les rues de Bamako. À 1 km, 200 mètres du domicile du président de la République, il y a une colline d'ordures à Bamako. C'est la honte, il faut le dire. Aujourd'hui, il faut qu'on s'éveille et que ce soit l'homme politique, que ce soit l'intellectuel, que ce soit la société civile, que ce soit les religieux, tout le monde doit se lever pour dire que si on ne veut pas périr au Mali, en Afrique, il faut qu'on se lève contre l'impunité et la corruption. Le problème du Mali, il y a un intervenant qui l'a dit, que la priorité, c'est la lutte contre l'insécurité, mais la priorité, c'est que la personne n'a pas compris.
C'est que la corruption finance l'insécurité.
La corruption finance l'insécurité et la corruption est à la base même de l'insécurité.
Alors, moi j'ai quand même une dernière question, il reste quelques 50 secondes pour vous répondre. Je dois être honnête, il y a quand même certains, et dont en l'occurrence c'est Razbat qui vous a accusé, vous aussi, d'avoir été en tout cas corrupteur ou corrompu, en tout cas si j'ai bien compris, il vous a accusé d'avoir surfacturé des offres de formation à l'aéroport de Bamako. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations?
Alors, je réponds parce que j'avais décidé de ne plus répondre, mais comme je suis en France, je vais devoir répondre. Et très rapidement, il y a eu un appel d'offres. Il y a eu un appel d'offres, ce n'est pas moi-même. C'est qu'il y a un cabinet qui m'a recruté comme représentant et qui a eu le marché et on a facturé. Je pense que dans la prestation intellectuelle, on a facturé, on a répondu, on a eu le marché, on a fait la prestation, on a fait la formation de A à Z et tout a été bien fait. Et on dit, Razbat, il sort, il dit que voilà, c'est le montant qui est la procédure.
110 euros, il a trouvé
voilà,
ça cher.
Que c'est cher. Mais si moi, je veux demain former chez Africa numéro 1 ici, Stéphanie et ses collègues, à 10 millions d'euros, si vous me donnez 10 millions d'euros, je le prends. Parce que c'est la valeur intellectuelle que j'ai. Mais comme Razbat n'est qu'un chroniqueur, et que je suis dans une autre dimension, je ne pense pas que je vais me rabaisser à trop le répondre parce que ça va lui donner un succès qu'il ne mérite pas. Merci.
C'est moi qui vous remercie, Clément Dembélé. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes président de la PCC, c'est la plateforme contre la corruption et contre le chômage au Mali. Bon retour à Bamako, Clément Dembélé.
Merci beaucoup.
Merci à vous, merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook. Elle est là aussi pour que vous vous inscriviez. Ça vous évite de patienter de longues minutes au standard et d'appeler sans être pris. La page Facebook de l'émission, c'est facebook.com/journaldesauditeurs. On se retrouve demain, mardi, pour une nouvelle édition. Demain, je vous propose de réagir à la rencontre entre Guillaume Soro et Charles Blégoudé à La Haye. C'est bien sûr de l'actualité politique ivoirienne. En attendant, prenez soin de vous. À demain.